Bien, nous allons commencer. Merci d'être venu tout d'abord. Et merci à François Guérif d'être venu pour la présentation donc, de ce livre du polar. Entretien donc avec Philippe Blanchet. Quelques mots d'introduction hein, très rapidement pour rappeler que vous êtes directeur de plusieurs collections donc chez Rivage, hein, Rivage Noir, Rivage Thriller, depuis donc près de 30 ans. Hein, je crois que c'était en 86 que cette histoire avait commencé. Et je crois Rivage Noir, d'ailleurs, qui approche, qui frôle presque, enfin pas encore, mais les 1000 parutions. J'ai vu que 913, au 30 avril, ce sera 913. Dans 4 jours, il y aura 913 donc, parutions chez Rivage Noir, donc petit format, hein, format de poche, plus tous les autres en Rivage Thriller, bien sûr. Et puis, donc, directeur, donc, après d'autres activités sur lesquelles on reviendra hein, dans notre discussion. Vous avez aussi beaucoup écrit, et notamment sur le cinéma noir, et même participé à un film. Bon, c'est une notoriété publique, donc je peux le dire. C'est de Polar, hein. Polar de Jacques Brel, d'après donc Morgue pleine de manchettes, où vous interprétiez un patron d'hôtel.
Un veilleur de nuit.
Un veilleur de nuit, pardon. En train de lire une de ces revues-là.
Voilà.
Hein, la revue Polar, dont on parlera tout à l'heure.
Mais un veilleur de nuit antillais, en plus.
Ah, d'accord.
Parce que Jacques Brel pensait, il disait que le clin d'œil, il ne fallait pas qu'il soit trop évident. Donc, j'ai connu les joies d'avoir une permanente et d'être maquillé. C'est d'ailleurs, ça vous donne des idées parce que le maquillage était tellement incroyable que je ne l'ai pas enlevé pour le montrer à ma femme et mes enfants. Et je suis allé prendre un pot au bistrot en bas de chez moi. Ils me connaissaient très bien. Ils ne m'ont pas reconnu. Donc, je me disais d'accord. Que finalement, si vous connaissez un bon maquilleur, vous allez braquer la boulangerie du coin et personne ne vous reconnaît.
D'accord. Et donc d'ailleurs, moi, j'ai essayé de rassembler mes souvenirs sur ce film que j'ai pas revu hein, depuis. Mais c'est vrai que je me rappelais pas vous avoir vu dans le film à l'époque. Bon, voilà. Donc c'est un mystère qui éclaircit.
J'ai une réplique.
Hein ? Oui.
J'ai une réplique.
Voilà. Alors pour venir très à ce livre, donc il faut dire que les entretiens avec Philippe Blanchet, j'ai trouvé qu'ils étaient d'une richesse impressionnante. Hein. Les appréciations sur les auteurs de Polar fourmis, bien sûr, dans le texte, et qui en est presque, on peut dire, bourré à craquer. Hein, donc, vraiment, ça dépasse de tous les côtés. On essaiera de reprendre tout ça calmement, mais peut-être qu'on va, pour parler du début, vous dites justement au début de votre interview que votre spécialisation vers le Polar s'est fait avant tout à travers le cinéma. Hein. Et ma question, c'est au fond... Vous avez peut-être plus écrit d'ailleurs sur le cinéma que sur le polar. Et comment peut-on expliquer ça ?
Sur le polar lui-même, j'ai pas mal écrit, notamment dans la revue Polar et tout. J'ai pas écrit de polar parce que, d'abord, je m'en sentais pas capable. Et puis, deuxièmement, je pense que ça aurait été une très mauvaise idée. Je pense que vous pouvez... dialoguer avec un auteur, mais si vous êtes vous-même dans la même catégorie, moi j'ai entendu avec des amis collègues qui étaient eux-mêmes écrivains, parce que des gens qui disaient bon, il trouve que mon livre est pas bien, mais lui il faut voir ce qu'il écrit. Bon, donc de toute façon, je crois qu'écrire un roman c'est assez difficile, et moi je m'en sentais pas capable, donc il y a aucun regret. C'est comme dans le cinéma, il y a les réalisateurs et les producteurs. Les producteurs sont à l'origine des films, souvent plus souvent que les réalisateurs, puis les réalisateurs sont les vrais grands artistes. Donc moi ça me plaisait bien d'être dans le rôle du producteur. Et le cinéma, pourquoi j'ai pu s'écrire sur le cinéma, parce que je pense que... Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'en plus, le livre sur le film noir, j'ai trouvé que c'était très flatteur, mais c'est l'éditeur qui est venu me trouver et qui m'a dit, à cause de Polar, il n'y a pas eu de livre sur le film noir depuis les livres de Bordet-Chometon qui remontent à 20 ans ou 25 ans, et on pense que vous êtes la personne la plus qualifiée, donc voilà, quoi.
D'accord. Et c'est vrai que, bon... pour parler de votre activité du directeur de collection policière, hein. Ma question, ce serait comment on réalise une collection policière réussie ? C'est-à-dire, est-ce que c'est en passant par différentes étapes, hein ? Par exemple, bon, vous avez commencé donc avec le Red Label, ensuite donc Fayard Noir. Est-ce que c'est en passant justement par, par différentes étapes que finalement on arrive à réussir la collection, ou est-ce que d'entrée de jeu, et je crois que c'est un peu ça aussi, vous aviez un certain nombre d'idées bien précises en tête et vous les avez développées dans toutes les collections que vous avez faites au fur et à mesure de leur existence?
Oui, oui. Moi, il n'y a pas eu... je veux dire que ce n'est pas des collections différentes. Pour moi, finalement, c'est une seule même grande collection. Il se trouve qu'au début, ça n'a pas marché. Ça a dépendu des éditeurs. Mais Rivage n'a pas réussi parce qu'elle aurait pris le contre-pied de Red Label ou de Fire Noir. Non, mon idée, ça a toujours été... C'est un genre que je trouvais formidable, que je trouvais le plus important. Et c'est vrai que c'est arrivé à un moment donné où, ça ne rajeunit pas, il y a 35 ans, il y a eu une explosion de la science-fiction en France. Et toutes les collections de poche, il y a eu des collections grand format, Robert Laffont, Ailleurs et Demain, Dimension, chez Calman Lévy, etc. Et il y avait tout un espèce de discours, un petit peu, dans les pages... dans les chroniques littéraires, que on disait que la grande littérature populaire de demain, c'est la science-fiction. Et le polar est en fin de course, les collections avaient beaucoup espacé diminué d'abord leur production, espacé les parutions, certaines disparaissaient. Et moi, je disais, mais non, c'est pas vrai, le polar est toujours très vivant. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une espèce de mode comme ça vers la science-fiction. Mais simplement, on ne les connaît pas parce qu'on ne les publie pas. Et en plus, comme j'ai toujours eu un côté, c'est vrai, un peu, pas collectionneur, un peu collectionneur, si, c'est que j'avais un certain nombre d'auteurs que je considérais comme vraiment des grands auteurs. Et je suis tombé des nues le jour où je me suis rendu compte, en tombant sur une bibliographie américaine, qu'un nombre quand même assez important de livres de ces auteurs n'avait jamais été publiés. Et bon, d'abord, c'était difficile de les trouver parce que comme c'était des livres qui étaient publiés aux États-Unis bien longtemps avant que les livres de poche, on les gardait pas à l'époque. Et puis, donc, mon idée à moi, en fait, j'ai fait de l'édition. C'est peut-être ça qu'il faut faire. C'est qu'en fait, j'ai publié les livres que j'aurais eu envie de lire, que j'aurais bien voulu trouver en librairie. Donc, c'est-à-dire les inédits de David Koudis, Jim Thompson, James Cain, etc. Et puis en même temps, bien sûr, trouver des auteurs peu connus. Et ça a toujours été cette idée-là, c'est-à-dire à la fois continuer encore aujourd'hui le travail de recherche, parce qu'il y a un nombre incalculable de livres qui sont passés à travers les mailles du filet, bon, qui ne sont pas connus, qui ne sont pas arrivés jusqu'ici, je ne sais pas, le hasard, parce que ça venait de Nouvelle-Zélande, parce que c'était australien, ou je ne sais quoi. Donc toujours faire ce travail quand même sur les vieux textes, les textes plus anciens, et puis en même temps, bien sûr, suivre ses propres auteurs. Alors, ça peut paraître banal aujourd'hui, mais à l'époque, en 78, je vous garantis que c'était une chose un peu révolutionnaire, entre guillemets, puisque j'avais même contre moi des gens comme Maurice Bernard-André, qui était le président du Grand Prix de littérature policière, donc qui était soi-disant la référence, avec le souci de dire, mais enfin, c'est incroyable, ces auteurs-là ont été publiés dans des conditions effarantes, les traductions, les livres sont coupés, les fins sont parfois changées, et... Donc l'idée révolutionnaire, c'était de dire, on fait une collection de poches, donc Red Label, c'est du mi-poche, mais c'est considéré encore comme du poche, de romans policiers, on ne coupe pas, et du coup, on introduit le fait de dire qu'on ne formatise plus les collections de littérature populaire. Parce que c'est ça le problème. Si vous achetiez Le Masque, il y avait, mettons, 212 pages. Si vous achetiez Fleuve Noir, c'était 226 pages. Si vous achetiez... C'était formatisé. Et dans Red Label, ce qui étonnait à l'époque, c'est que j'avais un livre, par exemple, Comment un dimanche de pluie, qui faisait 140 pages. Et puis j'avais Le Crépuscule des stars, qui en faisait 400. Et c'était dans la même collection. Et les gens me disaient, mais vous êtes fous, ça se fait pas. Et bon, je me suis toujours battu là-dessus. Et ça finit par se faire.
Bon, je rappelle, pour illustrer les propos de... de François Guérif. Je vous montre là, voilà, ça c'était par exemple la collection Red Label. C'est l'un des premiers.
Oui, alors ça c'était la Red Label. Ça, c'est, oui, parce que... c'est extraordinaire. Ouais. En fait, les livres étaient rouges. Oui. Et celui-là, il a été passé un peu au massicot. C'était Red Label bébé, ça voulait dire Red Label pour être distribué dans les bibliothèques de gare. Parce que les présentoirs, le Red Label était un tout petit peu trop grand, donc il ne rentrait pas dans les présentoirs. Donc ils avaient trouvé l'astuce de mettre une photo, ouais, et de massicoter. Alors, à l'intérieur, c'est horrible. Donc, c'est parce qu'en fait, c'est les livres originaux qui ont été massicotés pour retrécir le format.
Mais après, donc, autant que je m'en souvienne, enfin j'en ai d'autres, mais je n'ai pas tout apporté, bien sûr. C'était une couverture rouge. Hein.
C'était une couverture rouge. Voilà. D'accord. Alors, très mauvaise idée, ça s'appelait Red Label, ouais, parce que l'éditeur espérait être sponsorisé par Johnny Walker. Et finalement, oui, il ne l'a pas fait. Alors, d'ailleurs, j'ai fait une erreur dans le livre, j'ai dit que c'était à cause de la loi Evin, c'est complètement ridicule, parce que la loi Evin était beaucoup plus tard.
Postérieure. Oui.
Mais ouais, bon, ça a été simplement qu'il n'a pas eu. Ils avaient déjà tout lancé, mais le sponsor n'est jamais arrivé.
Ah oui, c'est vrai, Red Label, là, on le voit, c'est effectivement la marque de whisky. Ah oui, oui, bon. Voilà. Et puis ensuite, donc, deuxième exemplaire, deuxième illustration, pardon, c'est donc les Fayards Noirs, hein, qui a succédé un peu plus tard, je crois. Hein,
oui, c'est-à-dire que bon, Red Label, la maison Pâques, a eu des difficultés. Ouais. La maison Pâques avait des policiers, des ouvrages de cinéma. C'est par les ouvrages de cinéma que je suis arrivé à dire chez cette collection. Donc c'est toujours lié. Et puis des grands reportages dont le directeur de collection était Nicolas Hulot, figurez-vous. Et là, bon, la maison a eu de grosses difficultés. Donc ils ont arrêté la collection. Et à ce moment-là, j'ai proposé, j'avais en plus des titres en réserve, je suis. On m'a dit que Fayard allait lancer une collection. Alors, entre-temps, entre 78 et 81, c'est vrai, le polar, un peu grâce au journal Libération, était revenu en vogue. Mmh. Mais c'était en vogue avec le phénomène de la Cortage. C'est un côté un peu. Sur les jeunes auteurs français, Fajardit. Et puis, donc, je suis allé proposer la collection à Claude Durand. Et de la Cortage, avec qui je me suis très bien entendu, a dit. Non, il ne faut pas créer deux collections, il faut en créer une seule. Et puis, comme ça, on va pouvoir adosser les jeunes auteurs français à des vieux solides américains. Voilà, et puis, pareil, au bout de 22 numéros, ça s'est arrêté. Alors là, pas du tout parce que ça ne marchait pas, simplement parce que, faut le dire les choses comme elles sont, Jean-Claude Lattès a été nommé PDG de Hachette, et Jean-Claude Lattès, figurez-vous très bien, détestait le roman policier. C'est pourquoi je trouve quand même extrêmement immoral qu'il ait publié David Chicode, qui se soit fait des couilles en or avec, parce que franchement, il trouvait que c'était de la sous-littérature, et donc il a décidé de l'arrêter contre l'avis de Claude Durand, qui a... Donc voilà, et puis j'avais une autre collection chez un petit éditeur, il faudrait que Clancy Guénon. Puis je me suis dit bon bah c'est fichu. J'avais pris un job de, j'étais travaillé dans une revue de vidéo. J'écrivais beaucoup sur le cinéma. Mmh. Et puis, quand un jour, alors ça, c'est des choses qui arrivent comme dans les contes de fées. Une fois, un jour, il y a un monsieur qui s'appelait Édouard de Andrées, qui est venu me voir, en plus, qui s'est déplacé, et qui m'a dit, voilà, je dirige les éditions Rivage, que vous connaissez. Hypocritement, j'ai dit oui, mais évidemment, je ne savais absolument pas que c'était que les éditions Rivage. Vous avez dû remarquer qu'on a publié un Joseph Hansen. Oui. Mais on l'a publié comme... On a une collection de littérature étrangère, et on l'a publié... Les gens ne comprennent pas, parce que ce n'est pas un livre de littérature, mais... Alors, on s'est dit avec mon cousin que, quitte à faire à publier du policier, ce serait bien de créer une collection. Et quitte à créer une collection, il faut engager un directeur. Et quitte à engager un directeur, on a pensé à vous. Voilà. Et je me suis dit, ça peut paraître bizarre, mais franchement, pendant 48 heures, j'ai dit, je ne sais pas si j'ai envie de recommencer, parce que c'est un peu fatigant, un peu désespérant. Et puis, mon épouse m'a dit, mais écoute, t'en publieras encore 25 au moins, ça fera déjà finalement 25 plus 25 plus 25, ça fera une bonne centaine. Et puis est arrivé ce dont tout éditeur rêve, c'est qu'il est arrivé à ce coup un auteur qui a fait décoller la collection, qui lui a donc assuré un certain une rentabilité qui surtout donnait une respiration. C'est-à-dire que s'il y avait un échec, ça ne devenait pas catastrophique et ça ne mettait pas en danger la collection.
Mmh. Oui, donc pour parler donc de la collection Rivage, donc alors j'ai encore une chose à montrer. Ça, c'est le numéro 1 de Rivage. Ouais. Hein, voilà. C'était le Jim Thompson, Liberté sous condition. Regardez bien. Voilà. Et puis aussi, je crois que la collection, enfin, on reviendra en détail sur certains auteurs, bien sûr, mais la collection a décollé, si on peut dire, avec donc James Ellroy. Hein. Voilà. On peut peut-être raconter comment ça s'est passé.
Oui, ben absolument, parce que, comme je dis souvent, c'est une histoire morale. Je reçois ce livre d'un agent, Lune sanglante, premier livre. Je le lis et franchement, je dis dans le livre, je suis complètement happé par le livre. Je trouve que c'est complètement nouveau. Je trouve qu'on n'a jamais parlé de la violence comme ça, avec à la fois cette espèce de côté implacable et avec un recul très critique vis-à-vis de ça. Et puis un écrivain étonnant. Et donc... Alors, c'est qu'une collection de pages, encore la même chose. C'est un livre qui fait quand même, qui va faire 400 feuillets à traduire. Et je dis, on y va. Et là, l'agent me dit, il y a un problème, c'est qu'il y en a trois. Et donc, on vend les trois ou rien du tout. Et quand vous êtes une collection débutante, ça fait un gros investissement en avaloir. Et puis surtout, ça fait un gros investissement en traduction, parce que c'était des livres épais. Et du coup, Edouard Andris, il me disait, oh là, vous savez, faites attention, parce que si ça ne marche pas, vous allez couler la collection. Hein. Bon, elle va s'arrêter. Et voilà, mais cela dit, il m'a laissé le choix, il m'a dit, c'est votre responsabilité. Et j'ai dit, si, on y va. Et puis, c'est là où les ennuis commencent, évidemment, c'est que le livre... Je ne sais pas comment dire, le livre, avant même qu'il paraisse, il y a une espèce de bruit qui court en disant « Ouais, c'est un livre fasciste, c'est ce type, je ne sais pas quoi. » Et puis, ce qui fait que le livre paraît, et il n'y a pas une critique, je veux dire, mais vraiment pas une critique. Et pendant, je dirais, un bon mois, il ne se passe rien, quoi. C'est-à-dire que le livre ne se vend pas et il n'y a rien. Et je me suis dit « Ça y est. » C'est fichu et le hasard, c'est très bien, fait bien les choses. Parce que c'est le hasard. Je dis que j'ai un bon ange gardien. Jean-Patrick Manchette, avec qui j'étais ami, me téléphone. On se téléphonait régulièrement pour parler de choses et d'autres. Et il me dit le bouquin que tu viens de publier est génial. C'est qui ce type et tout. Je lui dis écoute, je suis content que tu trouves ça génial, mais enfin, t'es à peu près le seul. Et ensuite, je raconte ça à l'attaché de presse qui, du coup, elle a l'idée de téléphoner à Libération. Libération dit « Ah, ben, si Jean-Patrick Manchette veut écrire un article, évidemment, nous, on est preneurs. » Alors, un peu gêné, je rappelle Manchette qui, lui, me dit « Ah, mais moi, j'ai pas envie d'écrire l'article dans Libération. » Bon, je dis « Bon, laisse-moi, je vais y réfléchir. Rappelle-moi demain. » Je le rappelle le lendemain. Et puis, il me dit « Ah, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai eu envie. J'ai fait l'article. Ils sont venus le chercher. Il paraît le lendemain. » Et l'article est paru, c'est l'article qui est là. Et c'est vrai que ce jour-là, le phénomène Ellroy a démarré en France et s'est jamais arrêté depuis. C'est-à-dire que, à part Michel Renaud dans Le Dauphiné Libéré, il faut quand même le dire, qui avait fait une critique positive, d'un seul coup, alors que pendant un mois, il n'y avait vraiment rien eu et que l'attaché de presse n'avait aucune réponse, il y a eu 15 articles dans la presse en disant un écrivain comme ça, on n'en trouve pas tous les ans, enfin tous les 10 ans. Et puis surtout, Manchette était en même temps une caution morale, une caution littéraire. C'était quelqu'un qui avait vraiment une importance certaine. Et ça a lancé le Ellroy. Et donc, bien sûr, les deux suivants ont marché. C'est à cause un peu d'Ellroy qu'on a créé la collection Rivage Thriller, parce que je savais qu'il était en train d'écrire Le Dahlia Noir, qui allait être un gros livre. Et à un moment donné, l'économie, il fallait bien créer une collection. Je me disais, c'est idiot, on va trouver des auteurs. Et puis on va faire un peu parfois ce qu'ils ont fait à la série noire qui était idiot, c'est que d'un seul coup, l'auteur, il écrit un livre plus gros et on ne peut pas l'acheter parce que ben non, ça ne rentre pas dans... C'est trop cher pour le format poche. Donc, enfin, on va nous piquer les auteurs. Donc voilà. Et c'est vrai que ça, non seulement ça a assis la collection, qui avait eu un très très bon soutien critique, par contre, dans les 20 premiers, parce que c'est numéro 27, je pense, le Elroy. Et puis, comme je disais tout à l'heure, ça a donné une respiration quoi, financière intéressante, importante.
Voilà. Donc vous pourrez consulter l'article hein, à la fin du débat. Mais je crois que ce qui est important aussi, et ça, on le voit tout au long de l'entretien, c'est les idées que vous exposez en tant qu'éditeur. Vos idées fortes, hein, vous avez déjà parlé de retraduire des auteurs comme Thompson, comme Goodis, bon, et d'autres encore qui effectivement avaient été traduits notamment dans la série noire, hein, mais comme vous l'avez rappelé, qui avaient été effectivement un peu sabrés, ou même d'autres, hein, pour prendre Chandler, je ne crois pas que par exemple la Dame du Lac qui a été traduite donc par Boris Vian. Hein, je ne crois pas qu'elle ait été retraduite.
Non. Mais moi, au départ, de toute façon, ce qui m'intéressait, c'était les inédits de ces auteurs-là. C'est que c'est assez triste, parce que je me souviens d'avoir eu un jour une conversation avec Robert Soula, qui avait pris la suite de Marcel Duhamel. Et il m'avait dit, je lui ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas publié, par exemple, « Descente aux enfers » de Goodis, parce que je savais qu'ils les avaient tous eus. Il m'avait dit, ah non, Marcel trouvait que ça faisait trop confession d'un alcoolique repenti. Et comme je le poussais un peu, il m'a dit, écoute, je vais te dire, on avait décidé de ne jamais revenir sur les choix de Marcel. Donc je me suis rendu compte surtout de quelque chose que je trouvais assez choquante, c'est vrai, c'est que d'un côté, on disait, par exemple de Jim Thompson, numéro 1000, il dit dans la préface, c'est un Céline texan, c'est l'équivalent de Céline. Bon, si c'est un Céline texan, c'est que c'est un grand écrivain. Et à côté de ça, moi j'en ai publié 22 inédits de Thompson. Donc ça veut dire qu'en fait, et Jim Thompson, ce que m'a raconté sa veuve, il ne comprenait pas, parce que d'un seul coup, on lui disait qu'il était génial, et puis les trois livres suivants, on ne lui répondait même pas. Bon, ils n'étaient pas, c'est paradoxal, ils ont fait connaître ces auteurs, mais ils ne les ont pas traités, j'allais dire, comme des écrivains, hein, à part entière. Alors bon, on ne va pas réécrire l'histoire, et puis je ne suis pas là pour régler des comptes ou quoi, ce n'est pas ça du tout. Puis je peux comprendre l'économie, bon, c'est que, je veux bien. Moi, ce que j'ai dit, c'est vrai, par contre, ce que je trouve scandaleux, c'est que, c'est ce que vous disiez sur la dernière, c'est que ce sont ces traductions-là qui sont en folie aujourd'hui. Donc là, par contre, on ne peut pas, invoquer, soit... l'ignorance, etc. Et que moi, je connais encore, et c'est vrai que ça fait polémique un peu, des textes admirables, dont le lecteur français n'a malheureusement qu'une approximation, parce que la traduction est franchement bâclée, quoi. Et je n'ai pas peur de le dire, et je l'ai dit, ça me pose quelques problèmes parfois, mais c'est vrai. Par exemple, un des auteurs que j'adore, qui est Robin Cook, dont on parle beaucoup dans le livre, il y a une trilogie magnifique qui est parue en série noire. Ben moi, je suis désolé, preuve en main, Comment vivent les morts, c'est scandaleux. Je veux dire, la traduction française du livre est appauvrie considérablement le texte original. Robin est un écrivain magnifique, et je trouve que c'est scandaleux quoi, de traiter les gens comme ça, quand on est éditeur.
Je crois que c'est vrai que c'est l'une de vos idées fortes, c'est un axe de travail, effectivement, de traduire et de bout en bout, si on peut dire, hein, par rapport à ce qui se faisait auparavant. Je pense quelqu'un aussi comme Ross Macdonald, par exemple.
Mais hein, oui, bien sûr, c'est aberrant quand même quand on y pense. The Long Goodbye, considéré comme un classique de la littérature américaine, il a fallu attendre 80. Patrick Reynal, et qu'à des années 80, il manquait 100 pages. Ouais, bon,
c'est des
choses comme ça. Bon, et sur un certain nombre. Là, je suis très content parce que la famille de Jim Thompson nous a donné la préférence. Donc, on est en train de retraduire ce que la série noire avait encore. Bah, là, c'est vrai, c'est connu que l'un des livres les plus importants de Jim Thompson, c'est The Killer Inside Me, l'assassin qu'on a traduit par l'assassin qui est en moi. Je peux vous prouver, il manquait 25% du livre, un quart du livre. Alors évidemment, si vous publiez le récit d'un type qui commet des meurtres ignobles, alors ça peut vous choquer, vous dites, et que vous négligez de publier tout ce qui lui passe dans la tête, les commentaires et tout, c'est pas le même livre. C'est tout. Il y a sur ce côté-là, alors il n'y a pas, entendons-nous bien, il n'y a pas que la série noire, hein, je veux dire, les presses de la Cité, la collection Un mystère faisait pareil, etc. Il y a eu quand même un massacre, il n'y a pas d'autre mot, de certains écrivains. Il fallait rendre l'esprit collection, il fallait qu'il n'y ait pas plus de temps de caractère, il fallait que ça fasse avancer l'action. Tout ce qui ne faisait pas avancer l'action, on le barrait. Moi, pour moi, c'est la négation de l'écriture. C'est la négation d'écriture. Quelqu'un comme Chandler, en effet, par exemple, c'est quelqu'un qui fait énormément de digressions. Il peut vous faire une page entière sur le fait que sur le bureau de Marlowe, il y a un reflet de soleil et qu'il y a une mouche qui traverse le reflet de soleil, et il vous fait des lignes absolument magnifiques. Si vous les supprimez sous prétexte que ça ne fait pas avancer l'action, ben, ce n'est pas le même livre. Il faut se souvenir que la première traduction de Moby Dick en France, ils avaient coupé tout ce qui était documentaire sur la baleine. Ben, c'était pas le même livre.
Enfin, c'était Genoux qui l'avait traduit.
Non, c'est avant Genoux.
Justement, cette question des traductions, c'est vrai que dans les années 80, quand vous l'avez affirmé de manière évidente, c'est vrai que c'était quelque chose de nouveau, hein, dans les.
C'était complètement nouveau. Et quand je me suis fait désavouer par des gens comme Maurice Barrandrup qui disait, mais mon jeune ami, les écrivains américains, ils sont payés aux mots, alors ils rajoutent des mots pour toucher plus d'argent. Franchement, avec des arguments. Et c'est vrai que c'était. On m'a pris pour un fou. Mais le plus drôle, c'est qu'en fait, moi, quand j'ai commencé en édition, je ne me rendais pas compte de l'étendue des dégâts. Hein. Je le raconte dans le livre. C'est parce qu'un jour, je tenais à traduire un livre à France-Marie Watkins, qui travaille pour la série noire. Et elle me ramène un texte. Je lis la traduction et je me dis, c'est bizarre. J'ai pas le sentiment que de retrouver le livre que j'ai acheté. Et je lui dis, si vous pouvez me repasser parce que c'était livré à trouver, l'exemplaire. Elle me le repasse et je vois des pages entières barrées au feutre. Des pages entières. Et je lui dis, vous êtes folle. Et elle me répond, c'est vous qui êtes fou. C'est comme ça qu'on fait à la série noire. Donc, et quand elle me dit, c'est vous qui êtes fou, elle est persuadée d'être dans la vérité. Parce que c'est ce que fait tout le monde. Et donc, ça veut dire quand même une chose très précise. Ces écrivains-là ne sont pas considérés comme des écrivains. J'en reviens toujours à l'écriture, parce que je pense que c'est... Quand on est éditeur, on publie des écrivains, et qu'est-ce qui fait un écrivain? C'est l'écriture. À partir du moment où on nie ça, on traite ça par-dessous la jambe, je ne vois pas très bien ce qu'on fait.
Pour repréciser votre travail en tant que directeur de collection, vous dites à un moment donné que, je vous cite, pour monter une collection de romans noirs, mon idée a toujours été la même, prendre assise sur les piliers du genre, parce qu'il y a les piles d'inédits qui intéressent toujours les amateurs, donc ce qu'on a vu, et puis bien sûr introduire de nouveaux auteurs, parce que je n'ai jamais eu l'ambition de me contenter de simplement développer une collection qu'on aurait pu taxer de rétro ou nostalgique. Tony Lehrman est tombé exactement au bon moment, comme Jess Elroy, peu de temps après. Donc, à cette époque-là, effectivement, il y a eu un certain nombre d'auteurs, notamment d'auteurs américains, on verra d'autres nationalités, bien sûr, qui sont apparus chez Rivage, qu'on ne connaissait pas, bien sûr, et qui ont permis, effectivement, de développer la collection et puis d'avoir un public vraiment très attentif à ce que vous faisiez.
Oui, tout à fait. Ben, je pense, oui, que c'est... Justement, tout le monde disait avant, mais le policier est mort. Et moi, je disais, ça n'est pas vrai. Et la preuve, c'est que finalement, ces nouveaux auteurs que j'ai publié, ils avaient écrit pendant ces années où, soi-disant, il n'y avait pas de nouveaux auteurs. Parce que Tony Hillerman, par exemple, c'est une histoire assez étrange. La série noire en avait publié un, en plus, qui avait été plutôt bien accueilli par la critique. Et je ne sais pas pourquoi ils en ont publié un, ils n'ont jamais publié les autres. Et quand j'ai publié, moi, le premier, donc ça devait être en 86, mais le livre, il datait de, je ne sais pas, de 10 ans avant. Donc en plus, vous vous rendez compte, je veux dire, ça faisait un énorme travail. D'ailleurs, c'est parce que quand vous découvriez, je veux dire, un auteur, bon, bah, évidemment, si c'est un auteur qui est intéressant, vous avez envie de savoir d'où il vient, ce qu'il a fait, et puis de publier l'intégralité si vous pouvez. Mais du coup, ça devenait parfois un peu difficile, parce que c'est sûr, je découvrais le roi, et puis je me rends compte qu'il en a écrit. Alors, non seulement il en a écrit 3, j'ai acheté, mais il en a écrit 2 avant. Et il est en train d'en finir un. Alors, ça vous fait. Hillerman, il en avait écrit 10, etc., etc. Donc, il y avait du pain sur la planche. Mais c'est vrai que je pense que si je m'étais contenté. C'est déjà pas mal de boulot, mais de retrouver simplement les inédits, les grands auteurs et de faire ça, c'était un peu une collection musée, quoi, je veux dire. Or, moi, ce qui m'intéressait aussi en même temps, c'est de montrer que, à travers ces écrivains, que justement, ce grand courant du roman noir, depuis les années 20 jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais cessé d'être fluide et d'être nourri par des nouvelles voix tous les jours, quoi.
Et donc, pour en préparant ce débat là, je pensais, enfin, je regardais ce que Claude Mesplé dans le dictionnaire des littératures policières avait écrit sur vous. Hein, il disait que bon, il y avait donc 4 critères qui avaient fait votre succès en quelque sorte en tant que directeur de collection. Donc, ce qu'on a vu, hein, les traductions soignées. À la fois donc travailler sur le vieux fond entre guillemets d'auteurs connus et puis d'en faire connaître de nouveaux, et puis aussi le refus de la standardisation. Et je crois que bon, et en même temps, ce qui est important, ce que vous dites, hein, c'est que il y a aussi l'écriture. Un auteur, pour vous, c'est une écriture, et c'est vrai que c'est un me semble-t-il, un débat qui n'était pas posé en ces termes, quand vous avez pris la direction de Rivage, hein, qui était peu posé en ces termes, à l'exception notable, bien sûr, à mon avis, de Manchette, à l'époque.
Oui.
Hein. Donc là aussi, c'est peut-être une sorte de révolution, entre guillemets, sur le fait de faire accéder le roman noir, la littérature ou les littératures policières, au statut, entre guillemets, de littérature, un point, c'est tout.
C'est faire beaucoup de compliments, je sais pas. C'est vrai qu'il y avait des auteurs dont on reconnaissait, genre quand même Chandler ou Hamet, que c'était des écrivains, encore que même eux étaient pas très bien traités. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait, là aussi quelque chose de paradoxal, c'est qu'en même temps, les amateurs de polar, ils étaient... bon, on est bien entre nous, on s'amuse bien, on n'est pas prétentieux, etc. et tout, mais on se prend pas non plus au sérieux. Et donc, alors, on a eu toute cette période, justement, dans la collection Engrenage. Alors, le polar, c'est le polaroïde. Ou même Michel Lebrun, qui pourtant était un ami, qui disait, un polar, ça doit être vite écrit et vite lu. Et moi, je lui disais, et vite oublié, c'est ça, bon. Etc. Et donc, genre, oh, vous n'allez pas nous casser les pieds avec, avec comme ça, en triturant les choses. Et le seul qui, pour moi, avait un discours exigeant, c'était Manchette, bien évidemment. Et en plus, c'était très intéressant que ce soit Manchette, parce que Manchette, il a eu des suiveurs, parce qu'il a réintroduit le social au premier plan, parce qu'il a introduit la politique, en pensant d'ailleurs au roman des années 20, c'est pour ça qu'il l'appelait le néopolar, il a dit c'est bon, c'est plus la même période historique et tout. Et puis quand du coup dans le sillage de Manchette un certain nombre d'auteurs ont écrit des livres pour disant où ils s'engageaient, où ils disaient leurs opinions et tout, Manchette a simplement dit halte, il ne suffit pas de dénoncer certaines choses pour faire un bon roman noir. la révolution, je connais une phrase, elle dit, c'est la, d'abord, ça commence par à la page blanche, c'est la révolution de l'écriture. Mmh. Et Manchette a toujours dit l'écriture, l'écriture, l'écriture. Et moi, j'étais tout à fait d'accord avec lui. Mmh. Et en même temps, justement, ce qui était très agaçant, et là, c'est vrai que les choses ont un peu changé, c'est quand vous dirigez une collection de polars, très souvent, vous vous dites, alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire un bon polar? Alors, il faut des cigarettes, whisky et petite pépée, quoi, quasiment, c'est... Et il faut un soul killer, il faut de l'action. Et moi, je dis tout le temps, il faut une bonne écriture. Et je suis très content du fait que dans Rivage Noir, en effet, il y a des livres où il se passe beaucoup de choses, où il y a une action trépidante, très bien. Et puis, il y a des livres où il ne se passe rien. Hein, mais c'est quand même génial. Je tire Comme un ramor de Jan Willem van de Wettering. Ça fait 500 pages. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre. C'est deux flics qui vont en frise. Il y a un rat qui couine dans la cave. C'est le rat d'un collègue qui est malade, donc ils y sont allés pour le garder. Il y a plein de considérations. Il y a quand même une histoire. Mais il y a des tas de digressions, de choses qui sont absolument formidables. On peut écrire un roman magnifique où il ne se passe quasiment rien. Et tout comme on peut écrire un roman absolument ennuyeux au possible, avec des choses qui se passent à toutes les pages, s'il n'y a pas une écriture. Il faut... Les anglo-saxons, ils ont un terme que je trouve formidable, c'est « voice ». C'est « est-ce qu'il y a une voix ou pas ?» Il y a des livres qui sont très habiles, je veux pas de mal, où l'histoire est très astucieuse, mais qui sont écrits, j'allais dire, comme un ordinateur. Je veux dire, où c'est, il y a aucune écriture, aucun style. Ça m'intéresse pas. Je veux dire, bon, c'est moi. Hein, je veux dire, je veux pas du tout en dégoûter les autres et tout. Mais pour moi, un roman, c'est une voix. Hein, c'est une écriture, c'est un écrivain. C'est toujours le souci de l'écriture. Et c'est pour ça que, dès le départ, ce qui était drôle, pas tellement d'ailleurs, en fait. Mais c'est vrai, parce que vous imaginez bien que, en même temps, à l'époque, vous faisiez, un petit peu prendre à partie en disant que vous étiez prétentieux et tout. C'est que ce que je trouvais incroyable, c'est que même parmi les amis du polar, même parmi les gens de 813, parce que ce sont les amis du polar, il y a des gens qui disaient « Tu me casses les pieds avec tes histoires d'écriture et de style. Tu nous casses les pieds. »
Ça peut évoluer quand même.
Oui, j'ai dit bien, ça évolue. Ouais. Non, j'ai dit bien,
mais il y a encore des tenants de cette ligne-là, si on peut dire. Hein, il me semble. Oui. Ouais. Je pensais, oui, justement, à propos de l'écriture, hein, par exemple, quand vous parlez d'un auteur anglais comme David Peace, hein, qui déclame ses... moi, je l'ai vu quand il était venu à Bordeaux, là, il y a quelque temps. Donc, un auteur que vous avez édité, hein, que vous continuez à éditer, qui a fait donc une trilogie anglaise, puis ensuite qui a écrit des romans qui se passent au Japon. Donc, il y a sa manière, effectivement, d'écrire, qui est telle que quand il récite ses textes, puisqu'on lui demande de les réciter, bon, il les déclame, effectivement, et on est emporté, même si on comprend plus ou moins bien comme moi l'anglais, par sa manière, effectivement, de déclamer et de raconter une histoire qui est quand même importante.
Mais c'est un bon exemple, David Peace, parce que vous avez tout à fait raison, parce que quand David lit un de ses textes, même quelqu'un qui ne comprend pas l'anglais, il y a une musicalité dans les mots choisis, dans la scansion des phrases, dans le rythme, qui en rend toute la beauté. C'est que c'est comme un poème, c'est vrai. Mmh. Alors, c'est vrai que David Peace, lui, il écrit, il fait comme Flaubert dans son gueuloir, c'est-à-dire que pour voir si ça marche, il lit ses textes à haute voix. Ce qui lui pose des problèmes, parce qu'il vit au Japon, et comme les Japonais ont des maisons de papier, il paraît que les voisins, truc, il fait un peu de bruit.
Ils ont
un espèce d'anglais fou qui, à 2h du matin, déclame. Mais... C'est un magnifique écrivain, oui.
Lui, et puis je pensais aussi à... Bon, enfin, votre... Comme je l'ai dit au départ, hein, votre entretien, vos entretiens plutôt, sont effectivement truffés d'exemples et d'histoires et de la manière dont, effectivement, vous avez à la fois connu les auteurs, parce que c'est frappant quand même de voir comment... Bon, ce que vous racontez sur les rapports personnels que vous entretenez avec vos auteurs... Hein, que ce soit avec Cook, hein,
oui.
Avec aussi Elroy, bien sûr, avec Bunker. Bon, On peut s'arrêter peut-être sur Edouard Bunker, parce que, bon, justement, donc, enfin, vous le rappellerez mieux que moi, mais Bunker, donc, c'est un ancien, c'est un homme qui a été emprisonné, je crois, pendant près de 30 ans, ou plus de 30 ans même, et qui donc a écrit après, en sortant de prison, un certain nombre de livres, hein, « Aucune bête aussi féroce »,« Les hommes de proie », etc. Et en particulier, vous rappelez, donc ça nous rapproche, enfin ça nous ramène, si vous voulez, à ce que vous dites sur l'écriture, hein, le fait que, alors si j'ai bien compris, c'est à l'édition française, c'est, comment dire, c'est William Styron qui a préfacé l'édition française,
oui.
C'est ça, hein,
oui.
Vous pouvez le raconter,
oui,
ça,
oui, pour, c'est assez
drôle, sur les hommes de proie. Oui.
C'est Elrock qui me disait toujours, bon, parce que là, il y a ça aussi qui est bien, dans Rivage Noir, ça devient un moment, une famille, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui disent, tiens, t'as pas lu ça, c'est Robin Cook qui m'avait parlé de Ted Lewis, et bon, enfin, etc. Et là, Elroy, il est obsessionnel, et il disait tout le temps, le grand livre sur les bas-fonds de Los Angeles, il y en a qu'un, c'est No Be So Fierce. Alors, oui, bon, d'accord, alors. Mais James, No Be So Fierce, il y a eu un film qui a été tourné il y a 10 ans, qui n'était pas terrible en plus. Oui, mais c'est pas grave, le livre est formidable, No Be So Fierce. Et puis je vous jure, à chaque fois que, vous voyez, c'était François, No Be So Fierce. Bon. Et puis,
obsessionnel, hein.
Oui, on connaît. D'ailleurs, c'est lui qui, je sais plus, je crois, qui a fini par faire photocopier le livre à la librairie du Congrès. Je ne sais pas quand, il m'a envoyé une photocopie du livre, puisque le livre n'était plus disponible. Bon, j'ai eu un choc en lisant ce livre. Et je ne sais plus quelle était la question.
Non, c'était à propos de Styron.
Ah oui, Styron. Oui, et alors, bon, alors, donc, formidable et tout. Et puis, je vais à Los Angeles. Elroy le connaissait. Donc, je rencontre Eddie Bunker. Ça vous fait trop d'effet. Il joue dans certains films. Il joue dans Reservoir Dogs. Il fait Mr. Brown au début. Mr. Blue, je crois. Un type quand même un peu impressionnant. Et puis, descendez dans sa voiture, les collines d'Hollywood, et puis il vous dit pas un mot d'abord. Il a cette vache dans un bar. Et puis, bon, alors je lui dis que je suis ravi de publier son livre, etc. Et je lui dis, comme un cadeau, et je lui dis, vous savez, en plus, c'est bien parce que James Ellroy a accepté de faire la préface. Il dit oui. Il dit, j'ai un autre ami, justement, je lui ai parlé de cette édition française qui est prêt à faire une préface. Ah bon, je dis qui ? Il me dit William Styron. Et là, j'ai un moment de panique, je me dis, le mec est. Il est mytho, voilà, c'est pas possible. William Styron, oui, oui. Et puis, le hasard fait bien les choses. Alors, j'entends évidemment pas parler de Styron et tout. Et il se trouve que cette année-là, juste avant, au festival de Deauville, le prix du roman américain, du roman, oui, c'est Styron qui l'a pour Face à la mort. Et je suis invité au déjeuner, je me dégonfle pas, je pousse un peu le type qui garde le Styron et je lui dis, c'est vrai, vous connaissez Eddie Bunker ? Alors, il me regarde, il me dit, vous êtes qui, vous ? Alors, je lui dis, je suis son éditeur français. Il me dit, oui, bien sûr, je connais Eddie Bunker. Et je lui dis, et c'est vrai que vous seriez prêt à faire une préface ? Il me dit, bien sûr, il vous la faut quand ? Et je rigole pas. Alors, je lui dis, j'en ai besoin, je sais pas, c'était genre dans 15 jours. Il m'avait donné son numéro de téléphone en disant, rappelez-moi 4 jours avant. 4 jours avant, je téléphone, Mr. Styron's Residence, alors on dit. Alors, je rappelle. Le majordome revient, lui dit, ne vous inquiétez pas, vous aurez votre préface. Et par fax, j'ai eu dans la nuit la préface de William Styron. Qui du prix après a été reprise dans les éditions américaines évidemment et anglaises.
Qui est une très belle préface d'ailleurs.
Qui est magnifique. Oui.
Je peux en lire un morceau.
Ah bien sûr, hein. Bien sûr.
Écoutez bien. Bunker a produit une série de récits douloureusement élaborés, des récits durs, secs, grinçants et sans complaisance, qui ont révélé mieux que n'importe quel romancier contemporain l'anatomie de l'esprit criminel. Les Hommes de proie est un roman d'une authenticité atroce, une grande résonance morale et sociale, il ne pouvait être écrit que par Edouard Bunker, qui sait de quoi il parle, il l'a vécu. Voilà. C'était un extrait, donc bien sûr, je vous recommande la lecture Ils sont sortis en poche. D'ailleurs, je pense que dans la sélection.
D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est la seconde préface de William Styron, parce qu'il en a fait deux, Styron.
Ah oui.
Parce qu'il avait fait une préface déjà pour le premier.
Pour le.
Alors, c'est intéressant, un bunker, parce que justement, quand je dis qu'il y a des choses un travail à faire, une recherche, il y a aux États-Unis, il y a une revue littéraire qui est consacrée aux écrivains en prison, qui est faite en partie par les prisonniers, les ateliers d'écriture, etc., dont s'occupe un auteur aussi que j'ai publié, Richard Stratton. Et Richard Stratton, par exemple, il ne connaissait absolument pas Bunker. Et alors que sa spécialité, c'était les écrivains. Et il a découvert, je lui ai fait découvrir, et il a écrit un article que je trouvais très juste. Il a dit, vous vous rendez compte, il a fallu que ce soit un Français qui me fasse découvrir un de nos plus grands écrivains. Ça veut dire, c'est assez révélateur de la façon dont les écrivains sont traités dans ce pays. Et c'est vrai qu'il y a plein... S'il n'y avait pas eu Elroy, parce que sincèrement, l'édition allemande, l'édition anglaise est partie de l'édition française, s'il n'y avait pas eu Elroy, peut-être que Bunker ne serait jamais ressorti de l'ombre. Et en plus, il s'est remis à écrire, et il a écrit jusqu'à la fin de sa vie. Donc voilà, ça aussi, c'est un des points les plus... J'arrive pas à trouver mon mot, c'est pas grave.
Oui,
et puis satisfaisant de ce travail.
Oui, je pense à quelqu'un comme Jake Lamar, je crois qu'il a d'abord été... Il me semble que certains de ses romans sont sortis en français, non ? Enfin,
Non. Celui qui se passe à Belleville, oui.
Oui.
Non, Jake Lamar, c'est autre chose. Alors, ça, c'est très drôle parce qu'un jour, il y a chez Rivage, il y a... la jeune fille à l'entrée, elle me dit il y a un monsieur là qui un Américain qui veut te voir. Bon, alors il vient, alors je vois ce grand homme, ce grand noir qui rentre dans la salle et qui me dit, je lui dis qu'est-ce que vous voulez? Et il me dit très bon français, il me dit eh ben écoutez, c'est simple, je m'appelle Jack Lamar, je suis écrivain et j'en ai marre de ne pas être publié dans le pays où je vis. Je lui ai dit, laissez-moi votre livre. Et puis, ouais. Et puis, comme je le trouvais très bien, on l'a publié.
Nous avions un rêve, par exemple, qui est un très beau roman. Voilà. Donc, peut-être quelques questions encore avant de passer la parole à la salle. Il y a effectivement un certain nombre d'auteurs dont vous racontez les rapports que vous avez eus avec eux, les nuits de beuverie pour certains d'entre eux. Enfin, je parle là je parle des auteurs, je ne parle pas de moi. Robin Cook, qui était connu pour ça, pour ceux qui l'ont connu peut-être ici.
Les nuits de beuverie, Robin Cook, Hervé Lecor.
Ouais. Il n'est pas nécessaire de les signaler tous. Mais c'est vrai que, en même temps, il y a des... Moi, j'aurais envie, par exemple, enfin, qu'on puisse... Parce que j'ai cru comprendre que dans la longue série des auteurs que... dont vous avez parlé avec votre comment il s'appelle déjà, avec votre ami
Philippe Blanchet.
Évidemment, tous ne sont pas. Si j'ai bien compris, par la force des choses, il y a eu des petites coupures, quoi, au fond, peut-être.
Sans doute.
Voilà. Par exemple, moi, j'aurais aimé qu'on parle un petit peu de Wilford, l'Américain, qui est effectivement un auteur dont les livres ont paru dans les années 80. Enfin, en France, en tout cas.
Oui, même plus tard que ça, dans les années 80, début des années 90. Ouais. Voilà encore un autre exemple de choses qui sont, pour moi, étranges. Wilford, j'ai pas dit tout à l'heure en plus, quand même, que j'ai découvert par la suite pourquoi l'agent m'avait vendu les trois Elroy, c'est parce que Elroy avait été refusé par tous les éditeurs français. Donc quand on m'a dit, après, vous avez découvert Elroy, je dis oui, enfin, c'est... on peut dire ça comme ça. Alors, j'ai reçu un jour d'un agent américain, je crois, ce livre qui s'appelait Miami Blues. Bon, je trouve que Wilford est un écrivain absolument magnifique. Et j'ai découvert avec stupeur, mais franchement avec stupeur, qu'il publiait depuis 1947 et que aucun de ses livres n'avait jamais été acheté en France. Enfin, pour moi, c'est un mystère. Et c'est un grand regret parce que Wilford, il a signé le contrat avec Rivage, sa femme m'a dit qu'il paraît qu'il était très content, il est mort. Non pas parce qu'il avait signé le contrat, mais donc j'ai jamais malheureusement pu le rencontrer, et je trouve que c'est un écrivain majeur et un écrivain absolument magnifique. Donc, oui. Il reste du travail à faire.
C'est sûr, oui, je pense à l'un des derniers romans de lui que vous avez fait paraître, là, les Grands Prêtres de Californie, par exemple, hein, ou les Nouvelles.
Oui.
Les dernières nouvelles aussi sont vraiment des choses, vraiment des joyaux et des choses très intéressantes. Alors, il n'y a pas que le polar dans la vie, hein, on le sait tous. Et c'est vrai que dans vos collections, de temps en temps, il y a, je pense par exemple à un roman dont j'aurais eu envie de parler, moi, c'est celui de Sterling Hayden, Voyage.
Oui. Hein,
donc Sterling Hayden, vous le savez tous, c'était un acteur américain, donc vous pouvez peut-être nous dire comment les choses se sont passées pour lui.
Oui, c'est Sterling Hayden était un acteur, c'était un très bel homme qu'on a attiré à Hollywood, mais qui ne s'est jamais senti à l'aise dans la peau d'acteur, sauf peut-être pour quand la ville d'or de Houston, et qui était un homme assez révolté, très politisé, très engagé, et qui a craqué à l'époque du McCarthyisme. Il a divulgué, dénoncé le nom de certains de ses amis, et c'est une faute qu'il ne s'est jamais pardonnée. Ce qui l'a amené à faire des choix beaucoup plus radicaux par la suite, parce qu'il a déserté Hollywood, il a rompu son contrat, il est parti avec ses enfants à l'autre bout du monde alors qu'il avait interdiction de quitter les lieux, etc. Et il a raconté tout ça dans une autobiographie qui s'appelle Wanderer, Wanderer étant le nom de son bateau. Et c'est un homme qui rêvait d'écrire, et surtout la grosse surprise, c'est que c'est un magnifique écrivain. C'est un homme qui a une écriture absolument splendide. Et Wanderer est un des plus beaux livres de voyage et un des plus beaux livres sur quelqu'un qui se remet en question dans sa vie. Et le livre se termine sur des pages que je trouve bouleversantes, où après ce voyage qui a été chaotique, qui a été osé, qui l'a ruiné en plus, après tout ce qu'on veut, finalement à la fin il rentre dans un bar quand il est revenu et il voit son portrait dans la glace et il se porte un toast à lui-même et il dit adieu voyageur, parce que jamais tu ne revoyageras. Et après ça, Sterling Hayden, il a écrit un deuxième roman qui, alors, une chose inattendue, a été un best-seller aux États-Unis et qui était resté inédit. C'est un gros livre qui s'appelle Voyage et qui est aussi un livre absolument magnifique. Et le monde est petit. Si j'ai connu Voyage, écoutez, je vais vous dire, c'est parce que le livre m'a été offert par James Ellroy. Qui d'ailleurs a fait une préface à l'édition de Wanderer en France. Ellroy, il m'a offert deux livres. C'est en général, Ellroy, quand il rentre dans une librairie, il va acheter ses livres. D'abord. Et un jour, il a fait comme ça, je l'ai vu faire deux fois un virage à 90 pour dire tiens, il m'a offert Dino de Nick Toshes, que j'ai publié, et Voyage de Sterling Hayden. Donc voilà, mais ça n'a pas été publié en Rivage Noir, bien sûr, mais grâce à l'ouverture et au talent de notre directrice générale qui est là-bas, nous avons pu publier.
Dans la collection
littérature.
Littérature, ah oui, d'accord. Ah oui, pour, d'accord.
Oui, parce qu'on avait supprimé la collection. Mais alors, vous soulignez un point, alors là, je veux bien, qui est très important, justement, quand on parle d'écriture, c'est que j'avais fondé cette collection Écrit Noir, mais qui était, je crois, un peu mal perçu, on ne savait pas très bien où la ranger, c'est qu'il y a, chez des écrivains comme Thompson, etc., il y a des livres qui ne sont vraiment pas des romans policiers, pas du tout. Et donc, je me disais, on ne va pas se passer de ces livres sous prétexte qu'ils ne sont pas stricto sensu policiers. Et dès le début, d'ailleurs, dans les six premiers titres, il y a un livre de Jonathan Latimer qui s'appelle « Noir comme un souvenir ». Je me souviens que c'est la première soirée frotte que j'ai dû donner à Edouard de Andris, parce que quand il a lu les épreuves, il m'a dit « Mais François, c'est pas un roman policier. » Je lui dis non. Il me dit, mais c'est l'histoire d'un safari en Afrique. Je lui dis oui. Il me dit, mais vous êtes fou. Tout le monde va vous le jeter à la tête, je me souviens. Et je lui avais dit, mais Edouard, personne ne me jettera ce livre à la tête. Les amateurs de romans noirs de Jonathan Latimer, ça fait 20 ans qu'ils attendent que ce livre soit traduit. On ne va pas s'en priver sous prétexte qu'il n'est pas stricto sensu polar. Et c'est vrai que, bon, y compris du coup des livres qu'on a publiés dans la collection littérature ou écrit noir, l'édition de poche, ce sera le cas du Robin Cook et un écart de conduite, elle est en rivage noir parce que leur famille, elle est là. Et je suis très fier que dans une collection qui est une collection de romans noirs, ben, il y a aussi les mémoires d'un rouge de Howard Fast, il y a les mémoires de Robin Cook, il y a Dino, la biographie de Dean Martin par Nick Toshers, parce que ce sont des livres majeurs, essentiels de ces écrivains qui sont surtout connus pour leurs romans noirs. C'est pour ça qu'il y a les premiers romans de Robin Cook qui ne sont pas des romans policiers. C'est pour ça qu'il y a les romans de Jim Thompson qui ne sont pas des romans policiers. Et franchement, la grande satisfaction, c'est que j'ai jamais, alors ça peut arriver aujourd'hui, mais depuis 30 ans, j'ai jamais un lecteur qui est venu me voir en me disant « Mais qu'est-ce que ça fout avant l'orage de Jim Thompson dans une collection de romans noirs, c'est pas un roman policier ». Au contraire, c'était plutôt de dire « Ah, c'est formidable d'avoir publié avant l'orage ».
Oui, oui. Je pense que c'est...
Donc, ça veut bien dire aussi que les amateurs de romans noirs, ils sont pas plus bêtes que d'autres. Je veux dire, ils ont eux, pour eux, c'est quand même l'écriture c'est qui compte aussi. Je veux dire, c'est... Parce que ce que j'aimais pas dans l'attitude, finalement, qu'avaient les gens dans les années 80 et qui étaient responsables des collections, c'est que je trouvais aussi que le fait de dire « on coupe », on arrange les traductions, on s'en fout, c'est vite lu, vite oublié », c'était quand même, au départ, franchement, sans vouloir monter sur mes grands choses, c'était quand même un certain mépris du lecteur. C'est-à-dire, ça c'est bien pour lui comme ça.
C'est sûr qu'on pourrait égrener d'autres romans, je pense aussi. Bon, on va passer à autre chose peut-être, un roman de Burke, James Lee Burke, Vers une ombre radieuse, par exemple.
Absolument.
Qui n'est pas du tout un polar, qui est un roman de formation, enfin, ouais. d'un adolescent.
Bah, c'est vrai, Burke, il y a quelques romans, on les publie, on va pas se priver de ces romans-là qui sont magnifiques. Vers une ombre radieuse, c'est un des plus beaux Burke, c'est un de ses livres préférés, et c'est un livre très important. Puis on pourra dire que c'est quand même si c'est pas policier, c'est quand même assez noir.
Oui, on peut le dire, oui. On n'a pas parlé d'un aspect particulier de votre travail, mais enfin ça l'est de soi sans doute, c'est le cinéma, les rapports, si on peut dire, avec le cinéma, puisque bon, je crois que vous êtes fait connaître aussi en publiant un certain nombre de monographies dans les années 70. Et puis, bien sûr, le film noir américain, avec la préface de Cornu, première édition 79, une seconde au milieu ou à la fin des années 90. Oui, c'est ça. Ensuite, avec des livres d'entretien avec Chabrol. Bon. Et puis aussi, vous avez été de manière régulière, je le rappelle, collaborateur de la saison cinématographique dans les années 80, tout au long des années 80, et puis aussi dans le dictionnaire de littérature policière, vous avez fait entre autres les deux articles, à la fois sur le cinéma américain et sur le cinéma français. Voilà. Et dans le livre d'entretien, bien sûr, vous parlez beaucoup au départ, comme je l'ai rappelé, de vos rapports avec le cinéma. Est-ce qu'on peut dire que c'est le cinéma qui vous a ouvert sur qui a ouvert les portes, ou vous porte à vous sur le polar ?
Tout à fait, je le dis dans le livre. Et puis, il m'a doublement ouvert les portes sur le polar, parce qu'en fait, c'est vrai que j'étais toujours un cinéphile fou dès l'âge de 15 ans, et que je voyais ces films comme Le Faucon Maltais, ou tout, et d'un seul coup, je m'en rendais compte qu'il y avait des romans, donc je lisais le roman, et puis ça faisait boule de neige, parce que du coup, je regardais les autres romans de Dashiell Hammett, donc je les achetais, et puis le scénariste de Mintel, tiens, il a Burnett, il a écrit tel roman. Donc c'est le cinéma qui m'a amené, et même finalement dans l'édition, parce que Pâques, en fait, la première collection Red Label, elle est née, parce que on avait proposé avec un ami, on avait fait une première mouture du cinéma policier français, qui était un livre d'interview avec les réalisateurs. Et il y avait une collection de cinéma chez PAC qui s'appelait, qui était dirigée par Maurice Périsset. Et Maurice Périsset nous avait dit, bon, écoutez, malheureusement, moi, je publie, c'est pas le genre d'ouvrage que je publie, mais j'ai une collection qui s'appelle Tête d'affiche. Est-ce que vous ne voudriez pas me faire une monographie sur une star ? J'ai dit oui, bien sûr, tout de suite. Et en fait, c'est parce que ces monographies sur Paul Newman, Redford et McQueen ont marché que les éditions PAC se sont dit, il est malheureux, ce garçon a de l'or dans les mains, qu'est-ce que vous voulez faire ? Et j'ai dit, je vais faire une collection de romans policiers. Et donc c'est là que ça a commencé. Et la collection de romans policiers, l'éditeur a fait faillite, mais en même temps, c'est vrai que si ça a marché aussi, j'étais pas tout seul dans mon coin, parce que du moins, c'est vrai que la réponse critique à Red Label a été enthousiaste. Il y en a seul coup plein de critiques qui ont dit, même Manchette, justement, il écrit à l'époque, il dit, une collection qui commence avec un Goodis inédit, un Robert Bloch inédit, un Frédéric Bond inédit, un James Cagney inédit, on peut pas dire que ça commence mal. Donc, je me suis rendu compte, en effet, que j'étais pas le seul, quoi. Il y avait quelque chose à creuser. Donc, c'est la réussite de la vente de ces livres qui m'a amené en plus à l'édition, pratiquement, quoi, vraiment, au métier. Donc, le cinéma, oui. Mais de toute façon, pour moi, c'est deux arts qui voisinent ensemble. Le cinéma policier, le roman policier, complètement. Le film.
D'ailleurs, c'est frappant. Enfin, c'est frappant. Ça va de soi, bien sûr, mais en revoyant, par exemple, les revues que vous avez éditées, là, les revues Polar, il est vrai que, bon, donc il y a eu trois successives qui sont derrière. Enfin, vous les verrez ultérieurement. Vous irez les voir ultérieurement. Donc, à chaque fois, c'est vrai qu'il y avait une présentation de l'auteur, mais aussi de sa filmographie, souvent.
Oui.
Et toujours, il y a un travail de correspondance entre, si on peut dire, le livre et l'image. Toujours notamment dans ces revues polars, dans les différentes... puisqu'il y a eu trois séries, hein, je crois.
Oui.
Voilà.
Oui.
Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui était relativement... nouveau, hein, à l'époque, cette manière d'appréhender effectivement des auteurs de romans policiers, à la fois par leurs écrits, mais aussi la manière dont ils étaient adaptés. Hein. Enfin, revenons à une question pratiquement aussi fondamentale. Hein. Dans vos interviews, vous parlez en particulier, enfin, on évoque la différence, bien sûr, entre le roman énigme et le roman noir. Bon, vous avez... une caractérisation qui est assez toujours lumineuse, hein, des romanciers, que ce soit des romanciers les plus traditionnels ou les plus anciens, pardon, pas les plus traditionnels, comme l'auteur de Sherlock Holmes, Conan Doyle, pardon, jusqu'à effectivement les écrivains les plus contemporains. Et vous dites quelque part, et ça c'est c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent, hein, d'ailleurs vous l'argumentez. Vous dites que, au fond, vous paraissez relativiser la frontière entre les genres, le roman énigme et le roman noir, en disant que la frontière n'est pas si hermétique que ça. Et vous prenez des exemples, hein, comme des romans de Conan Doyle, des romans d'Agatha Christie. Moi, j'en ajouterais même un, comme par exemple La Grande Roue de Ball, qui est un roman de fin 19e, qui raconte par exemple l'histoire du petit peuple, entre guillemets, ou des prolétaires et des artisans dans le Londres juif de fin 19e, et qui est vraiment avec une idée autour donc d'un crime en chambre, hein, et qui est vraiment stupéfiant comme roman social aussi.
Hein. Oui, je pense en effet que c'est pas... La seule vraie différence entre, si on pourrait dire, le roman énigme et le roman noir, c'est que dans le roman énigme, comme j'ai dit, au début, il y a un désordre, il y a un meurtre, il y a un vol, etc. Et à la fin, le désordre est réparé. Bon, il y a un flic, l'assassin est arrêté ou meurt. Et que ça donne, disons, un sentiment de sécurité au lecteur. Et que dans le roman noir, ben, souvent, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, même si l'assassin est arrêté ou pas assassin, je veux dire que le lecteur termine sur une vision du monde tellement dur qu'il est perturbé et voilà. Donc on disait, alors du coup le roman énigme, dans ses pires travers, ça devient en effet un jeu de société, genre, alors Madame la Comtesse a empoisonné, je pense. Et puis, mais à côté de ça, il y a des romans énigmes, ou bien sûr, en effet, Agatha Christie, il y en a un de ses romans qui parle des enfants tueurs, et de façon très intelligente. Je pense que c'est aussi assez énorme. Il y a un exemple assez, alors que je trouve assez convaincant, je trouve, parce que là, c'est un vrai mélange. C'est l'une des gloires, si je puis dire, enfin des idoles des lecteurs anglo-saxons, c'est un monsieur qui s'appelle Crofts, qui s'appelait The Carsk, le tonneau, qu'on a publié. Crofts avec Claude Chabrol, qu'on a fait cette collection ensemble. Lui, il voulait absolument publier The Carsk. Alors, incroyable, un roman de 1900, je crois. Alors, très très connu, mais jamais traduit. Tous les autres Crofts sont traduits, celui-là, jamais traduit. Je vous la donne en mine, Maurice Bernard-André me dit d'un ton suffisant, mais mon jeune ami, il était trop grand. Oui, mais enfin, c'est le meilleur. Oui, mais il était trop grand. Donc, on traduit l'autre qui est moins bien, mais parce qu'il est plus petit. Et donc, Chacha, il voulait absolument ce livre. Moi, je ne l'avais pas lu, je veux dire, à l'époque. Et quand je lis le livre, alors c'est typique du roman énigme, c'est, attendez, alors... Il a pris le ferry à telle heure, à 12h17, s'il arrive à 12h36, ça veut dire que, etc. Des arguties et tout. Oui, d'accord. Mais n'empêche que le meurtre, la découverte du corps dans le tonneau et le personnage du criminel, qui est un personnage quasiment sadien, est un personnage d'une noirceur et d'une force qui, pour moi, je veux dire, fait éclater l'impression de confort du roman énigme. Donc la frontière, moi, elle est poreuse, parce que c'est vraiment l'un des classiques. Et on a découvert par la suite, c'est pour ça qu'on l'a réédité, on a fait une bande, en effet dans les lettres de Chandler, que Chandler dit que c'est le plus grand roman policier qu'il ait jamais lu. Le meilleur qu'il ait lu. Donc, Chandler qui, lui, était impitoyable sur les travers du roman énigme, je dois dire. Donc, c'est ça. Et puis, d'un autre côté, il y a des romans, des romans noirs, où il y a quand même une intrigue très, très, je veux dire, comme un roman énigme. Il y a même un roman de Jeval et Valeux qui s'appelle La Chambre close. Donc, c'est pas aussi différencié que ça.
Très bien. Bon, on va peut-être arrêter. Alors, en guise de conclusion, je voulais lire un petit texte. Après, je dirai de qui il est. Il me semble qu'il a été écrit peut-être un peu pour vous. On va voir. Voilà, c'est à propos des traductions et d'autres choses, de ce qu'est devrait être un directeur de collection. Et le texte dit « Ça devrait être une des tâches principales des directeurs de collection que de choisir les traducteurs, virer les abrutis, distinguer l'abruti du débutant capable, mais encore maladroit. » Entre parenthèses, donc l'auteur dit « Je me souviens d'avoir dirigé une collection où un jeune traducteur apportait un tapuscrit qui transformait l'âne d'or d'Apulée en cul d'or d'Apuleius. Il y avait quelques autres énormités de ce genre, mais c'était comme des tâches dans un texte solide et clair. Ce jeune homme, aujourd'hui moins jeune, est l'un des 10 ou 20 meilleurs traducteurs actuels de Polar. Bien entendu, le directeur de collection doit faire relire et corriger les traductions par les hommes sûrs ou des dames, ou bien se taper lui-même le travail. » Bien entendu, le directeur de collection doit être au moins bilingue et même polyglotte, à présent qu'on traduit, alors je ne sais pas ce qu'il a voulu dire là, l'auteur, des Rabouins, des Rital et des Alboches. Bon. Il doit être très cultivé, posséder une documentation géante et même savoir le français. Alors même que toutes ces conditions sont très généralement réunies chez tous les directeurs de la plupart des collections de romans policiers, un homme se présente, ajoute-t-il, qui a plusieurs conséquences de gravité croissante. Il s'agit tout bonnement de la chute de ce qu'on appelait autrefois la culture, devenu ce qu'on appelle aujourd'hui la culture. Bon, je passe. Il dit, le roman noir, dans son purgatoire culturel, a maintenu pendant plus d'un demi-siècle une position réaliste critique. À présent qu'il est sorti de ce purgatoire, donc là, le texte date des années 80, à peu près, c'est pour tomber dans le prusinique, à présent qu'il est sorti de ce purgatoire, c'est pour tomber dans le prusinique de l'animation culturelle et dans les bras d'une littérature qui agonise notoirement depuis 1920. Nous verrons, ajoute l'auteur, dans une prochaine livraison, comment organiser la résistance. Et donc, je peux ajouter à titre personnel que François Guérif l'a organisé brillamment. Merci. De qui le texte ?
Jean-Patrick Planchette.
Hein, voilà. C'était facile, donc vous avez deviné de qui était le texte. C'est de Manchette. Voilà.
C'est Manchette, c'est un texte dans Polar, d'ailleurs, oui, et, oui. Et c'est un texte qui me touche beaucoup, parce qu'en plus, si je, il était revenu sur le sujet, et en fait, quand il est mort, il préparait un texte contre, comme il disait, ceux qui avaient trahi, ceux qui avaient franchi la ligne, qui avaient honte d'être des écrivains de romans policiers et qui donc se faisaient bien voir pour rentrer dans la blanche. Et c'est vrai, c'est son dernier texte. Et puis, c'est incroyable parce qu'il a, je vous jure, il était à l'hôpital. C'est vraiment pas de chance parce qu'il il devait être opéré. Je veux dire, il était pas, a priori, il n'était pas en danger. Et moi, le dernier message que j'ai eu de Manchette, il a téléphoné pour dire qu'il était désolé et qu'il serait un peu en retard pour la remise de son texte. Et il est mort, son genre.
Merci François Guéry.
Merci à vous.